De Saint-Amand. N'y pensons plus, se dit-elle, avec une gaieté à la fois plus légère et plus vive que d'habitude. Il leur restait quelques minutes avant de découvrir Bussy, et Pierre fut tout d'un coup envahi d'impatience. Il s'était efforcé jusque-là de repousser cette rencontre très loin dans le futur, se refusant à imaginer les émotions qu'elle lui procurerait, comme ces amants qui essayent d'oublier le rendez-vous qu'ils ont fixé à 2 jours, et qui est néanmoins ce qu'ils ont de plus important au monde, sachant que s'en souvenir les ferait défaillir, et qui n'éprouvent aucun scrupule à ruser ainsi avec l'essentiel, et à préférer le repos mensonger que cette feinte leur procure à l'enfer de la vérité et de l'attente, tant il est vrai qu'on pense d'abord à soi-même. Les sentiments d'Augustin Pierre n'avaient certes pas cette violence, mais le dîner de la veille l'avait introduit dans un univers si curieux, et aussi rationnel qu'il fût, et peut-être impressionné malgré lui par ces légendes qu'on lui racontait complaisamment depuis une semaine, son père avec ironie, le vieux National avec quelque insaisissable chagrin, Marie-Antoinette Grigoriev avec un peu de tendresse, il devait bien s'avouer cerné par d'obscurs pressentiments. Chaque tour de roue brassait des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Le général, d'ordinaire plus discret, se laissait en effet emporter par le vent de cette course vers Bussy, et ne résistait plus au passé, soit que cette maison eut le pouvoir de le ressusciter dans les esprits mêmes qui lui étaient les plus réfractaires, soit que l'évocation de détails révolus lui parut constituer une protection suffisante contre le sortilège. Il y avait ici un poste de l'armée de Chanzi. L'oncle National était avec eux, c'était au moment de la mort de sa mère. Vous voyez ce colombier en ruine, le vieux père Fèvre y montait. Il avait la meilleure vue du pays et voulait voir venir les Prussiens qu'il avait connus enfant près de Paris. Il est mort là-haut par une nuit de grand froid, c'était un hiver terrible, vous savez. Puis le général se tut troublé, fâché peut-être de voir qu'il donnait corps à cette légende qu'il affectait de moquer. Augustin pensait à tous ces noms nouveaux dont on lui parlait, c'était comme si ces endroits avaient existé avant les hommes, pour leur servir de point de repère afin que la vie sur terre ne soit pas trop difficile. Un Dieu bienveillant avait créé les pays. La voiture glissait au milieu des champs givrés, d'un grand bois doré à un autre. À une lieue de Bussy, le givre avait disparu, et la nouvelle couleur des prés, vert tendre ou vert de vase, paraissait marquer les limites de l'ancien domaine. Bussy apparut au loin, au bout d'un chemin absolument rectiligne, comme un grand buisson ocre et fatigué. Le cocher força l'allure. La voiture sautait sur les ornières. Ils distinguèrent l'allée du domaine, dont les arbres déjà dépouillés semblaient fichés en terre comme autant de piquets sur le sol réticent. Mais à son début, un éventail de bouleaux rouges lançait ses feuilles vers le ciel comme des milliers d'étincelles jaunes, et ce feu d'artifice champêtre était de bon augure. Insensiblement, le cheval avait repris le pas. Ils s'engagèrent dans l'allée, traversèrent un épais rideau d'arbres. Alors ce fut un autre monde. Le silence y régnait. Le vent qui sifflait dans la plaine ne passait pas la barrière des arbres. Ceci formait une manière de cirque de verdure au fond duquel s'élevait un petit château. De l'extérieur, on aurait dit une île mystérieuse. De l'intérieur, une clairière enchantée. Mais sans doute les charmes de l'endroit étaient-ils d'autant plus forts d'avoir été médités souvent et longtemps imaginés. Un oiseau chanta et Pierre se souvint de la fable du bénédictin d'Esterbach que son père lui lisait autrefois, avec l'idée qu'un peu d'allemand ne lui nuirait pas. Enfant, l'éternité lui faisait peur. Il se représentait la succession des heures sans fin et frémissait d'angoisse. Mais ce théâtre clair que même la lumière d'un matin d'octobre ne pouvait dépouiller de son mystère le ramenait à des visions plus douces. L'éternité, fût-ce dans les forêts, lui resterait étrangère. La vie suffirait, si différente de celle qu'il avait connue, les 18 heures de travail de ses études, 9 à l'étage de la librairie des deux mondes, 9 dans les salles de dissection de la faculté, le tout avec cette gaieté efficace qui stupéfiait ses camarades, lesquels s'en remettaient toujours à lui dans les cas difficiles, et les rares vêtements jetés sur les chaises devant le feu du libraire, et qui tous puaient le phénol. Vivre et mourir là, se dit-il pour ajouter ensuite, vivre un peu et mourir peut-être. Pourtant, à cet endroit, sa vie passée s'effaçait dans la grisaille et rien n'était plus nécessaire. Le chant des sirènes faisait son effet. Augustin, le général et le cocher demeurèrent un long moment immobiles au milieu de la trouée qui leur livrait passage, et à partir de laquelle deux routes en demi-cercle, chacune épousant la courbe des arbres, conduisaient à la maison. Augustin remarqua un grand pin de Nordman, tirant sur le noir, dont le sommet brisé net s'était rabattu, écrasant les branches sur un côté. « C'est l'orage d'il y a 3 mois, » dit le cocher. Comme s'il n'avait pas entendu, Grigoriev dit alors en souriant, désignant la maison, « Le voilà, le Bussy de nos malheurs. » Ils contournèrent une ancienne pelouse ornée en son milieu d'un bassin rond mangé par les herbes. Largement fendu, le bassin semblait se replier sur lui-même sous l'effet des pressions du sol, comme si celui-ci eût tenté d'expulser ce corps étranger qu'aucune volonté humaine ne lui imposait plus. Il n'y avait pourtant pas si longtemps qu'Isabelle de Bussy était partie, avait fui, aurait dit Grigoriev, et sans doute le bassin était-il dans cet état depuis 20 ans. Mais Augustin dut chasser l'idée que le bassin avait été fracturé, entamé par le temps depuis son départ, comme si les règles ordinaires de la physique et du vieillissement des choses ne s'appliquaient pas à cet endroit précis du centre de la France. D'ailleurs, un léger agacement le prit devant son peu de résistance à l'inconnu, à cet inconnu-là. Il se compara à une femme trop facile et sourit. Le prenant par le bras, négligeant les beautés du parc, le général le conduisit au pied du petit escalier à double révolution. La maison n'avait qu'un étage aux fenêtres ouvertes dans ce toit en forme de mitre, bâti sur le modèle de l'hôtel de l'évêque de Bourges, qui était célèbre dans tout le pays, et dans les deux petits toits des ailes, qui présentaient une forme pyramidale plus classique. Le Pompidou, enjambant les demi-fenêtres des cuisines et des caves, menait à un rez-de-chaussée qui était en réalité un entresol, les pièces de réception surplombant le parc. À Pierre qui s'étonnait que les deux parties de ce Pompidou fussent dissymétriques, Grigoriev répondit « Eh oui, à l'instar de la maison de Bussy, cette demeure fut construite sur des fondations plutôt fragiles. » Ils entrèrent par l'arrière. Pierre découvrit un univers banal et clair, et le général lui en fit sobrement les honneurs. Rien n'y étonnait. Sauf cette lumière d'octobre que les vitres, par leur irrégularité, semblaient ramener quelques mois en arrière, au temps où le soleil d'été, nourri de poussière et de rires d'enfants, vieillit les tapis et donne envie de refaire les peintures, mais les pièces étaient nues et le silence avait repris ses droits. La bibliothèque, aux rayons vides, donnait sur un jardin d'hiver où quelques melons finissaient de pourrir, et 3 orangers en pot.